Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance, partout et en toutes circonstances. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé. Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est donc ainsi que Paul conclut, à peu de choses près, une lettre admirable qu'il aura voulu jusqu'au bout, profondément pastorale, par un éloge, celui de la générosité exemplaire de ses amis macédoniens. Et ce faisant, il nous éclaire sur sa conception divinement inspirée, faut-il le rappeler, de la générosité chrétienne authentique, et plus particulièrement sur la nature et le fruit de cette générosité. D'où notre méditation en deux parties ce soir, la nature de la vraie générosité et le fruit de cette vraie générosité. La nature de la vraie générosité. Qu'est-ce qu'une générosité authentique? Prenons donc pour modèle la libéralité des Philippiens. Nous relèverons ce soir quatre marques ou signes distinctifs. Une générosité vraie est en premier lieu une générosité concrète. Une générosité concrète. Le verset 15 parle déjà d'un échange de contributions. Au verset 16, ensuite, Paul évoque un don destiné à pourvoir à ses besoins. Avant de nous assurer, au verset 17, qu'il ne recherche pas les dons. Le verset 18, enfin, indique clairement que ce qu'il a reçu en provenance de Macédoine l'a comblé, en sorte qu'il s'estime désormais dans l'abondance. On comprend, du coup, sa joie. Littéralement, je me suis immensément réjoui, écrit-il, et sa reconnaissance dans le Seigneur. Parce que mieux que quiconque, il sait qui est l'inspirateur de ce geste. L'intérêt soutenu que les Philippiens lui portent depuis qu'ils se sont rencontrés et que lui, Paul, les a comblés en partageant avec eux ce qu'il y a de plus précieux, l'Évangile. Cet intérêt, ils ont su le matérialiser par un don bien concret. Cette contribution dont ils ont chargé l'aimable Épaphrodite. C'est l'apôtre Jean qui, un peu plus tard, écrira, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en acte et avec vérité. » Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Là, je pose la question, mes amis, avons-nous compris ce que Dieu attendait de nous? Est-ce que nous l'avons compris? Ce qu'il attend de nous est que nous aussi manifestions notre amour pour Dieu, son œuvre, ses serviteurs ou ses enfants, par des offrandes en nature. Ou espèce, tangible, palpable, Une générosité vraie, donc, une générosité concrète, d'abord, mais pas seulement. Une générosité réfléchie, ensuite. Réfléchie plus souvent que improvisée. Verset 10. J'ai éprouvé, écrit l'apôtre, une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. L'impression que nous laisse ce bref témoignage est que, bien avant d'avoir pu, je traduis ici littéralement les mots choisis par Paul, faire refleurir leur intérêt pour lui, en pourvoyant à ses besoins, les Philippiens formaient déjà le beau projet de les combler. D'où la satisfaction et l'admiration de l'apôtre. Le don qu'il a reçu en provenance de la Macédoine n'est pas le produit d'une inspiration soudaine, d'une émotion passagère ou d'un emballement fugace que ses amis pourraient regretter avec le temps, mais bien le fruit parfaitement mûri d'une réflexion communautaire largement inspirée par la reconnaissance. Cela faisait longtemps que les Philippiens désiraient exprimer leur affection et rendre à leur père spirituel la monnaie de sa pièce, si je puis dire. Ce n'était donc pas la volonté, ils brûlaient plutôt, de retourner à leur manière les bénédictions reçues, mais l'occasion qui leur manquait encore. C'est pourquoi Paul peut être tranquille. Aucun risque que ses amis se repentent un jour de s'être montrés si généreux à son égard. Et là, je pose à nouveau la question, mes amis, nos libéralités sont-elles pareillement mûries? Sont-elles, comme celles tant appréciées des Philippiens, le produit d'une réflexion sérieuse menée en dialogue avec Dieu et destinée à exprimer notre immense reconnaissance à son égard? Ou seulement des gestes ponctuels faits par compulsion et qui, soit dit en passant, parce qu'ils sont fonction de notre humeur du moment, ne sont pas toujours bien ciblés. Une vraie générosité est une générosité concrète et réfléchie. Mais pas seulement. C'est aussi une générosité généreuse. Une générosité généreuse. Début du verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé. Le moins qu'on puisse dire est que les Philippiens n'ont pas marchandé leur soutien à l'apôtre Paul. Ils auraient pu réclamer des notes de frais en bonne et due forme ou des justificatifs au sesterce près. Ils n'ont rien fait de la sorte. Mais comme un seul homme, ils se sont cotisés pour faire parvenir à leur pasteur une offrande à la mesure moins de ses besoins à lui que de leur gratitude à eux. C'est que, voyez-vous, quand on aime vraiment, on ne compte plus qu'à peu près. Histoire juste de ne pas s'appauvrir soi-même en se montrant déraisonnable. Mes amis, comment planifions-nous notre contribution à l'œuvre de Dieu? Comment planifions-nous notre contribution à l'œuvre de Dieu? Notre investissement personnel, nos dons. Je prends l'exemple de nos offrandes, de mes offrandes. Sommes-nous de ceux qui, après qu'ils ont soigneusement examiné la courbe des collectes, qui figure au fond de cette salle, se disent « Oh là, du calme !» Si je me montre trop généreux, l'Église risque de dépasser son objectif. Ou super, les collectes sont celles attendues, ce qui est le cas actuellement, merci Seigneur. Je peux donc passer mon tour ce mois-ci. Comme si Église et abondance ne pouvaient pas rimer. Incroyable et vrai pourtant. Comme si Église et abondance, comme si œuvre de Dieu et abondance ne pouvaient pas rimer. Où sommes-nous de ceux qui, parce que leur gratitude à l'égard de Dieu et leur amour pour les autres sont réels, profonds, immenses, n'ont de cesse qu'ils n'aient consenti à un don qui leur coûte? Par quoi nous entendons un don qui fait quand même un peu mal? Qui fait quand même un peu mal. Une vraie générosité, une générosité selon Dieu, donc une générosité concrète, réfléchie, et généreuse, mais également persévérante. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie, écrit Paul dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Et verset 16, à Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ces textes suggèrent nettement ici qu'aussitôt après le départ de Paul pour Thessalonique, les Philippiens ont eu à cœur de lui venir en aide matériellement et qu'ils ne l'ont pas secouru une fois seulement, mais deux, trois, pour tout dire, régulièrement. Et en cela aussi, ils sont exemplaires. Qu'il nous est difficile, en tant qu'individu surtout, mais en tant qu'Église aussi, parfois, de faire preuve de constance en matière de générosité et d'inscrire notre soutien, qu'il profite à l'œuvre du Seigneur en général ou tel de ses ouvriers, dans la durée. C'est pourtant cette persévérance qui nous est proposée ici comme modèle. C'est à elle que nous sommes exhortés. Tant il est vrai que Dieu aime ce qui donne ou se donne régulièrement et pas seulement par à-coup, selon leur bon plaisir, quand ils le sentent. Voilà un peu de mots pour la nature de la vraie générosité. Le moment est venu pour nous de nous intéresser à son fruit. Le fruit de la vraie générosité. S'il fallait un mot, un seul, pour le résumer, ce serait à coup sûr le mot, au risque de vous étonner, le mot joie. Joie. La joie du bénéficiaire d'abord, la joie du donateur ensuite, la joie de Dieu enfin. La joie du bénéficiaire d'abord. Dans le cas de Paul, cette joie est immense. Retournons au verset 10, littéralement, « Je me suis immensément réjoui ». Mais en fait, pourquoi ? L'apôtre l'assure, ce n'est pas parce qu'il était en attente d'un secours quelconque et que son espoir a été concrétisé. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, verset 11, à être satisfait de ma situation. Et pour le cas où il ne se serait pas bien fait comprendre, il ajoute au verset 12 et début du verset 13, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance, partout et en toutes circonstances. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Heureux homme qui a appris à être content, voire à s'estimer comblé, quelles que soient ses circonstances de vie. Dans le dénuement, la détresse même, comme dans l'affluence, dans la maladie, comme dans la santé. Et pourquoi ? Pour une simple et excellente raison, il a choisi, lui, une bonne foi, de faire définitivement confiance au Seigneur, de faire définitivement confiance à son Sauveur pour pourvoir en toutes circonstances à tous ses besoins selon sa richesse. Ce n'est donc pas parce qu'il espérait une aumône et que son vœu s'est réalisé qu'il est immensément heureux, non, mais parce que dans la situation peu enviable de détenu en attente de son procès qui est la sienne, le plus important est de savoir qu'il est aimé. Aimé de ceux qui l'aiment lui par-dessus tout, en l'occurrence les Philippiens. Ces hommes et ces femmes qu'il a engendrés dans la foi. Or, ce énième don de leur part est un signe nouveau et tellement réconfortant de l'affection vive et profonde qu'il continue de lui porter. N'oublions jamais, mes amis, le bonheur que ne manquera pas de procurer le plus petit sacrifice de notre part ou la moindre de nos libéralités à celle ou celui qui en bénéficiera. Rien n'est plus encourageant, stimulant, sinon euphorisant que d'être la cible d'un amour suffisamment fort pour se fendre d'un geste gratuit. Veillons donc à nous montrer toujours plus généreux les uns à l'égard des autres pour leur joie et la nôtre. Et nous voici parvenus tout naturellement au deuxième effet éminemment positif de la générosité, la joie du donateur. La joie du donateur. Au moins autant que le bénéficiaire, l'auteur du don généreux est heureux. Et pourquoi ? Pour deux raisons au moins. D'abord, parce qu'en contribuant ainsi à l'œuvre de Dieu, il assure son avenir. Il assure son avenir. Verset 14. « Vous avez bien fait, écrit Paul, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Pourquoi cet éloge ? Parce qu'en se montrant généreux comme ils l'ont fait, les Philippiens sont d'ores et déjà assurés la belle récompense que ne cesse de leur souhaiter l'apôtre. Seconde partie du verset 17. Je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Ou parce que le langage ici est un langage éminemment commercial. Je désire, c'est une autre traduction, qu'à votre capital viennent s'ajouter de gros intérêts. Voilà ce que signifie en réalité ce texte. Le Seigneur, à qui aucun de nos gestes n'échappe, saura honorer leur libéralité en les inondant, pour ainsi dire, de bénédictions insoupçonnées. La leçon pour nous est claire. Si nous voulons être comblés, au dernier jour en particulier, soyons généreux. Généreux. Celui qui sème peu, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens cette fois, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Quant au livre des Proverbes, il nous assure, ce livre, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse, elle, sera comblée. Contribuons donc aussi largement que nous le pouvons à l'œuvre du Seigneur. Le seul investissement au monde dont nous pouvons attendre sereinement des retours, quelle que soit la conjoncture. Des retours extravagants, totalement disproportionnés. Mais il est une seconde raison pour laquelle le donateur généreux est heureux. Il assure son présent. Il assure son présent. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ah, la belle promesse. Formidable, en effet. Promesse que nous aimons à nous approprier aujourd'hui, tant elle est propre à rassurer les plus inquiets. Problème. Nous oublions régulièrement qu'elle a été énoncée dans un contexte particulier, comme un encouragement adressé spécifiquement à des chrétiens qui venaient de se révéler particulièrement généreux. D'où nous concluons que si nous voulons hériter à notre tour de cette extraordinaire assurance, il convient que nous commencions par faire preuve de libéralité. Alors seulement, nous pourrons nous appuyer pleinement sur l'engagement divin à pourvoir à tous nos besoins matériels et spirituels, sachant que la richesse de ces ressources n'est pas seulement infinie, mais glorieuse. C'est le sens probable ici de l'expression « avec gloire ». Et qu'elle est à notre disposition grâce à Christ, à qui nous devons d'avoir affaire aujourd'hui à un Dieu favorablement disposé à notre égard et qui brûle de se montrer généreux en notre faveur. Mais il est temps maintenant d'examiner le troisième et dernier effet positif de la générosité, la joie de Dieu. La joie de Dieu. Paul l'évoque, me semble-t-il, au verset 18, lorsqu'il parle du don des Philippiens comme d'un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Le vocabulaire était il y a peu celui de la finance, il est maintenant celui du culte. Pour l'apôtre, il ne fait aucun doute que si le geste généreux des Philippiens a fait un heureux, c'est Dieu qui le reçoit comme une offrande personnelle particulièrement agréable. Pourquoi ? Le fait que les termes choisis ici pour qualifier le don reçu, parfum de bonne odeur, sacrifice agréable, sont les mêmes ou presque que ceux utilisés ailleurs en rapport avec le sacrifice suprême de Christ, nous met, je crois, sur la piste d'une réponse. Le don généreux n'est de loin pas la moindre de ces œuvres belles qu'il commande à ses enfants pour qu'elles le glorifient, au sens, j'y reviens, où elles le traduisent, où elles l'expriment, elles le donnent à voir au monde. C'est pourquoi il agrée ce geste entre tous, qui le manifeste si bien, lui qui n'a pas hésité à offrir pour nous ce qu'il avait de plus cher, son Fils, son unique. C'est pourquoi donc il agrée ce geste entre tous, parce qu'il est un signe donné aux hommes par lequel nous pouvons voir, commencer au moins d'entrevoir qui il est vraiment, à savoir l'être généreux par excellence. Encore faut-il que le geste dont nous parlons soit l'expression d'une générosité à l'image de la sienne, concrète, réfléchie. Cette croix n'a pas été improvisée, mais pensée dès l'origine des temps, généreuse et persévérante. Plaise à Dieu qu'à l'instar des Philippiens, nous trouvions, vous et moi, je dis bien vous et moi, nous trouvions notre plaisir dans le don. Et que notre générosité soit telle que l'on puisse dire un jour de nous ce que Paul écrivait au sujet de ses amis macédoniens. Et je termine par cette citation de la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, versets 2 et 3. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Amen.